Merci Eric, bonjour à tous. Nous allons donc prendre ce texte, Éphésiens 3. Et peut-être avant de nous y plonger, je vous invite à prier. Dieu notre Père, nous te bénissons encore ce matin. Tu es le Dieu suprême, le Dieu élevé au-dessus de tout, celui qui sait toutes choses. Celui qui a envoyé son Fils afin de se construire un peuple nouveau, son Église. Dispose-nous, Seigneur, à écouter ce que tu as à nous dire et agis au plus profond de nos cœurs. Pour ta gloire. Amen. Éphésiens chapitre 3. Lisons le texte. Moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse en Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infinie variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quand on fréquente les gens, on aime savoir qui elles sont. Quelles sont leurs préférences? Les préférences culinaires, par exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, il y a de nombreuses émissions sur la cuisine. On peut aussi être curieux de savoir ce que ces personnes aiment lire quand on est adepte de la lecture. Il y en a parfois qui se challengent. Alors, qu'est-ce que tu as lu la semaine dernière? Ah, j'ai lu ceci, et toi? Et c'est une manière aussi de se connaître. L'Église doit être celle qui sait qui elle est. Quelle est son identité? Autant nous voulons connaître les autres, autant comme Église, nous devons savoir qui nous sommes. Avant d'aller plus en profondeur, disons un mot du contexte. Vous avez remarqué que d'entrée, l'apôtre Paul nous parle des non-juifs. Les chrétiens d'Éphèse, pour la plupart, en effet, étaient des non-juifs. Et cette identification, elle est importante pour comprendre la mission de Paul et de saisir ce que c'est que l'Église. Lorsqu'on lit en Galates au chapitre 2, les versets 11 à 21, il est question de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui, à Antioche, avant l'arrivée de quelques personnes proches de Jacques, le frère du Seigneur, essaye d'éviter de manger avec les non-juifs. Autrement dit, à l'époque, on ne mélange pas les juifs et les non-juifs. Les non-juifs sont des pécheurs. Leur fin est connue, c'est la mort éternelle. Ils sont voués à l'interdit. Pourtant, quelque chose s'est passé. Il y a un mystère. C'est-à-dire une chose qui est difficile à expliquer. Une chose qui n'est pas naturelle. Quelque chose d'extraordinaire a eu lieu. Au point que l'apôtre Paul, qui est juif, accepte d'être le prisonnier de Jésus-Christ pour les non-juifs, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles ça ne servait à rien de miser un sou, parce qu'elles n'en valaient pas la peine. Elles n'étaient pas dignes. Et c'est là la révélation dont Paul vient nous parler. En tant que juif de naissance, il est impensable pour Paul, juif, d'entrer dans une quelconque relation avec des non-juifs. Son chemin en tant que juif est tout tracé. Mais un événement inattendu vient interrompre ce parcours, cette marche dans le judaïsme. Paul parle de la révélation. Paul parle du mystère, le mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été donné à tous les hommes dans le passé. Mais maintenant, ce mystère a été donné aux saints apôtres et aux prophètes. Et ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un seul et même corps avec eux, qu'ils participent de la même promesse en Christ par l'Évangile. Ça, c'est une bombe qui est jetée dans le judaïsme. Quoi ? Ces gens vont aussi bénéficier des promesses faites à Abraham. Abraham, notre ancêtre à nous. La tradition est battue en brèche. Imaginez-vous, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce continent, que les promoteurs de la race aryenne, race supérieure, s'entendent dire « tous les hommes sont égaux ». C'est un scandale, ça n'est pas possible. Eh bien oui, c'est un choc pour beaucoup d'hommes et de femmes, et même encore aujourd'hui, qui pensent que ce n'est pas juste. Comment Dieu peut-il accorder le même statut aux humains? Nous n'aimons pas beaucoup cela. On préfère constituer des sous-groupes, des catégories, créer des brèches, des fractures dans la race humaine. Oui, Paul affirme qu'il est de ceux qui sont au service de cette cause. Et il a reçu ce don de Dieu. Et il sert la cause du Seigneur en annonçant l'évangile à ceux qui étaient perdus. C'est décoiffant pour un juif d'entendre ces mots. Mais Paul persiste et il va plus loin. L'Église est l'instrument du Seigneur pour laisser voir aux anges l'étendue de la sagesse de Dieu. Les anges déchus, qui ont contesté la toute-puissance de l'Éternel, peuvent réaliser que malgré leur rébellion, le Seigneur reste adoré. Le Seigneur reste reconnu comme tel par sa création. Celle-là même que le diable a tenté d'entraîner dans la mort. L'Église de Christ vit malgré les attaques incessantes de l'ennemi. Et cela peut nous faire penser à Job. Job a été attaqué de toutes parts. Et qu'est-ce qui a fait tenir Job? Sa foi en l'Éternel. La raison d'être de l'Église, c'est d'être un corps constitué de juifs et de non-juifs. Aujourd'hui, on dirait, n'en déplaise à ceux qui pensent autrement, que l'Église, c'est le lieu de la rencontre de tous les humains, d'où qu'ils viennent. La sagesse de Dieu est beaucoup plus élevée que la nôtre. La nôtre qui cherche les différences. La nôtre qui cherche ce qui n'est pas comme moi. Cette sagesse de Dieu invite à regarder l'humain plus que la race, l'appartenance sociale ou la culture. La raison d'être de l'Église, c'est de louer l'Éternel et de manifester sa sagesse. Nous sommes une fois encore ici dans des considérations certes pratiques, mais hautement spirituelles. Nous ne voyons pas les anges dont l'apôtre Paul parle, dont la Bible parle, et pourtant elle atteste leur existence. En 1 Timothée 5, le verset 21, Paul écrit « Je t'en supplie devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. » En fait, Paul est en train d'instruire Timothée à avoir une attitude vis-à-vis des différentes personnes dans l'Église. Les jeunes femmes, les veuves, les anciens, les vieillards, les jeunes hommes. Ce que je veux souligner ici, c'est la présence des anges. Paul veut rendre Timothée sensible à la question ou aux questions spirituelles. Et cette sensibilité est réveillée par la présence du Saint-Esprit en nous. En toute humilité, Paul nous fait part de la raison de son engagement pour l'Église. Ce n'est pas le fruit de ses efforts, ni de son initiative propre. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que cela est possible. Aussi se considère-t-il comme le plus petit de tous les saints. Quelle humilité! En effet, plus le Seigneur vous élève, plus l'humilité habite votre cœur. Le mal que l'on trouve en soi devient plus important que ce que l'on voit chez les autres. C'est pour cela que Paul peut écrire en Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Paul questionne notre manière de servir. Le Saint-Esprit en nous manifeste-t-il ses fruits de l'humilité pour la gloire de Christ? C'est extraordinaire parce que le Seigneur se sert des hommes pour manifester sa gloire. C'est par l'Église que les dominations et les autorités dans les lieux célestes apprennent ou découvrent la sagesse infinie de Dieu. Les dominations célestes sont ces puissances qui ont été vaincues à la croix. Ces puissances tiennent les humains dans le péché. Et c'est pourquoi Éphésiens 6, verset 12 nous invite à combattre, à lutter à mener cette lutte spirituelle en nous attribuant les armes. Il est dit ceci, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous devons lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. On a parfois le sentiment que les chrétiens qu'on a des chrétiens qui sont complètement ignorants de ces réalités spirituelles. D'autres chrétiens nient même ces réalités spirituelles, en contradiction totale avec le texte biblique. Certains considèrent que les chrétiens qui parlent de cette lutte spirituelle sont trop spirituels. Ils ne sont pas assez rationnels. Ils manquent d'assises terrestres. Il y a un réel besoin de retourner aux Écritures. Les armes spirituelles que décrit l'apôtre Paul nous ont-elles quittées? La vérité est-elle toujours à notre bouche? Est-ce que l'on s'offusque des injustices que nous subissons ou que parfois nous faisons subir aux autres? Avons-nous encore le zèle d'annoncer l'évangile de Dieu? Nous parlons assez facilement avec nos proches de toutes sortes de choses et assez rarement de notre foi. Il ne s'agit pas d'être intrusif ou agressif, juste d'expliquer notre choix de Christ. L'épée de l'Esprit qu'est la parole de Dieu gît souvent au chevet de notre lit et elle est éloignée de notre cœur. Lorsque nous sommes vêtus de cette manière, comment voulons-nous alors mener cette bataille spirituelle, cette lutte spirituelle dans laquelle la parole de Dieu nous appelle, nous invite? Alors il nous reste de belles paroles et de belles conversations sur la parole de Dieu. Lorsqu'elle est éloignée de nous, comment pouvons-nous être conscients de cette réalité? Lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, les fruits sont manifestes, ils sont palpables, ils sont observables. Jésus disait en Matthieu 7, verset 18, « Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » C'est aux fruits que l'on reconnaît des prétendus prophètes. L'idée, je pense, n'est pas de regarder tellement aux autres, c'est de regarder d'abord à soi-même. Où est-ce que j'en suis dans ma marche avec le Seigneur? L'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère de Paul lui donne, même dans les chaînes, d'agir pour la cause de Christ. Il est en prison et cela n'éteint pas sa foi. Paul comprend que c'est à travers l'Église, celle de Christ, que le Seigneur se fait connaître. L'Église, elle est constituée de ceux qui ont reçu Christ par la foi et ceux qui vivent une relation avec lui. L'Église, c'est celle qui fait connaître Christ aux hommes, au point que son impact va jusque dans les lieux célestes. Lorsque cet objectif est atteint, les souffrances de l'apôtre Paul deviennent peu de choses à ses yeux. Le monde des ténèbres nous environne et nous y vivons parfois en toute tranquillité. Certains chrétiens réagissent si peu à toutes ces influences. Ils s'en accommodent et parfois justifient leur attitude ou leurs attitudes. J'entendais ma collègue dire, au lendemain de l'ouverture des Jeux olympiques, pourquoi y a-t-il tant de réactions négatives par rapport à ce qui est présenté, ce qui a été présenté? Elle ne comprenait pas pourquoi. Parce que pour elle, il faut montrer, laisser nos enfants voir ces choses. Parce que comme ça, ils seront sages, ils comprendront le monde dans lequel ils vivent. On n'a plus de réaction. face à ce qui est ignoble, face à ce qui est détestable. On s'en accommode et on trouve normal qu'il en soit ainsi. Qu'en est-il de la lutte spirituelle? Paul n'a d'autre recours que la prière. Et il parle de toute famille dans le ciel et sur la terre. Une façon de rappeler aux Éphésiens que le dessein commun de l'humanité, il est le même pour tous. Paul veut leur faire comprendre qu'ils font partie du plan du salut éternel, tout comme les Juifs de l'époque. Toute famille sur terre est précieuse aux yeux de l'Éternel. Et Paul se sent légitime pour prier pour elle. En l'occurrence ici, de prier pour ces croyants d'Éphèse, qui de manière directe n'ont pas de lien avec Abraham, ils n'ont pas de lien de sang avec Abraham. Et ce que Paul demande en premier dans sa prière, c'est que ces chrétiens soient puissamment fortifiés, c'est-à-dire rendus forts. Lorsque l'on lit en Éphésiens 2, verset 5, la nouvelle identité en Christ est celle du ressuscité. Nous étions morts spirituellement, mais maintenant Christ nous rend à la vie. Christ nous rend à la vie spirituelle. Si nous sommes vivants spirituellement, c'est pour quoi faire? Ben, c'est pour la vivre. Vivons cette vie spirituelle que Christ nous donne. Notre monde a ce défaut que l'information est abondante. Nous avons beaucoup de connaissances, parfois même beaucoup de connaissances bibliques. Mais nous ne vivons pas de cette vie spirituelle à laquelle nous sommes appelés. On sait qu'il faut prier, on sait que l'Esprit Saint est censé agir en nous. On sait qu'on doit porter du fruit, le fruit de l'Esprit de Dieu. Et si souvent, nous sommes les premiers à évoquer les contingences mondaines. C'est vrai, la vie spirituelle, mais tu sais, c'est compliqué. Je dois quand même aussi tricher comme les autres, sinon je ne m'en sors pas. Paul a vécu dans ce monde un homme éveillé spirituellement. Et dans notre monde, le siècle précédent, nous avons entendu parler des hommes qui ont vécu de manière extraordinairement spirituelle, animés par l'Esprit de Dieu. Et peut-être que près de vous, vous en connaissez des gens qui, sans être des personnes parfaites, qui ont une piété évidente, qui vous poussent à aller vers Christ. C'est parfois étonnant quand après un match de football, vous discutez avec les supporters et vous entendez toutes sortes de commentaires. Ah oui, mais il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et je peux vous mettre au défi que si vous posez la question à ces gens, est-ce que tu as déjà joué au football? Beaucoup vous diront non. Et c'est très étonnant, notamment pour des gens qui sont des fans de la course automobile. Ils en savent tellement. Mais si vous les mettez dans une voiture, ils ne peuvent pas la conduire. Est-ce que c'est ce genre de chrétien que nous voulons être? Des gens qui savent des choses sur Christ et qui en vivent très peu. Paul prie le Seigneur pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie des croyants d'Éphèse. En Luc 21, verset 34, nous lisons « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » Verset 36, « Restez donc éveillés. Restez donc en éveil, priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Seigneur. » Alors, pour ceux qui se posent la question, quand on dit la vie spirituelle, mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, Commençons par la prière. Nous arrivons, si nous sommes capables d'apprécier les richesses que le monde nous offre. On est heureux d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture. Parfois, c'est des vêtements, des bijoux, et que sais-je. Est-ce que nous sommes conscients de la richesse spirituelle dans laquelle le Christ nous amène, choisi par Dieu? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cela? Être choisi par Dieu, pardonner de nos péchés, connaître la volonté de Dieu pour sa vie, co-héritier de Christ. Que faisons-nous de toutes ces choses? Comment notre homme intérieur peut-il être puissamment fortifié si nous avons une vie de prière pauvre? En Galates 5, le verset 16, nous lisons « Voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Ce qui caractérise les chrétiens, c'est d'être habité de l'esprit, d'être habité de Christ. Il les rend forts face aux réalités du monde dans lesquelles ils doivent vivre. Paul prie pour que émergent de cette église des croyants qui vivent de la vie de Christ. Est-ce que la vie de Christ était facile dans le monde dans lequel il a vécu? Le deuxième motif de la demande de prière de Paul touche à l'amour. Un cœur puissamment fortifié et habité par Christ a pour fruit un amour incompressible. C'est un peu comme un arbre qui est planté au bord d'un ruisseau, d'une rivière. Il porte son fruit en son temps et son feuillage ne flétrit jamais. L'amour que l'Esprit de Dieu fait naître en celui qui l'habite, ne fait pas seulement appel aux sentiments, c'est aussi une volonté, la volonté d'agir par amour. Pour l'autre. L'amour se traduit par une attitude altruiste, c'est-à-dire que je deviens apte à considérer les intérêts de l'autre avant les miens. Et c'est ce que la Bible recommande, de considérer les autres, les intérêts des autres au-dessus des miens. L'absence d'amour est préjudiciable à la vie spirituelle. Et ce n'est pas tant l'entourage qui influence, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque Jésus a enseigné aux foules, il déclara ceci, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Matthieu 15, verset 11. Ce sont les fruits qu'on observe qui indiquent ce qui vit dans notre cœur, ce qui gît au fond de nous-mêmes en tant qu'humains. On peut même parfois ne rien en dire. On peut se taire, mais l'agir parle encore plus fort. La troisième demande de Paul porte sur la connaissance de l'amour du Christ. Tout croyant au moment de sa conversion est attiré par cet amour. Comprendre cet amour est une démarche individuelle, mais aussi collective, une démarche communautaire. Cet amour est appelé à se vivre en communauté. Cela n'est possible que si l'on plonge ensemble dans l'Écriture, de façon à ce qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, que nous puissions comprendre que cet amour existe et qu'il est donné pour nous, pour que nous le vivions en Église. Cet amour, Christ l'a donné. Vivons-le. Cet amour porte pour fruit la paix, la joie, la puissance, le brisement, l'humilité et d'autres. Le quatrième sujet de prière de Paul est le fait d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et en lisant ça, je me suis dit, qu'est-ce que Paul veut dire, être rempli de la plénitude de Dieu? Et j'ai pensé, là on est dans le langage de Canaan. Et en lisant les commentaires, je n'ai pas trouvé un commentaire qui m'aide pour nous expliquer. J'ai trouvé une illustration. Et l'auteur dit, c'est un peu comme si vous prenez un dé à coudre et que vous plongiez dans l'océan. Le Seigneur représente un océan et le dé à coudre, c'est l'humain. Être plongé dans Dieu pour être rempli de sa plénitude. Le Seigneur est infini, mais il veut nous changer. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est cela que le Seigneur souhaite. Mais nous savons que Dieu est Dieu, et s'il est Seigneur, il ne se contente pas d'émettre des vœux, il les réalise. Mais il ne les réalise pas sous la contrainte. Il les réalise avec notre assentiment, notre volonté. Paul termine ce chapitre par la louange à Dieu et il nous présente le Dieu trinitaire, le Dieu qui peut faire. C'est l'Esprit Saint qui agit puissamment dans nos vies lorsque nous sommes disposés à obéir. Ce qui est frappant dans cette fin des textes, c'est qu'il est question de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est agissante en l'humain. Elle peut être effective dans l'Église. Est-ce que c'est juste de dire « elle peut être effective » ? On devrait peut-être dire « elle doit être effective dans l'Église, la gloire de Dieu ». La gloire de Dieu, elle est manifeste de génération en génération. Et dans la prière d'introduction tout à l'heure, on a entendu ce que Nicolas disait, que Dieu agit depuis tant de générations. Et nous sommes là aujourd'hui en héritage de ce que Dieu a fait depuis tant de générations. En conclusion, ce texte nous parle de l'histoire d'un homme ancré dans sa culture pendant toute une partie de sa vie. Il a vu le monde de façon binaire. Ce monde était constitué de juifs et de non-juifs. Il a pensé qu'il servait le Seigneur par le biais de sa culture. Parce que sa culture est une culture qui connaît le Dieu Tout-Puissant depuis ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents, ainsi de suite. C'est un peuple qui a les alliances et la loi. Mais un jour, cette rencontre extraordinaire avec le Seigneur, le Dieu qu'il croyait servir finit par se révéler. Il se révèle à lui. Et cette rencontre change tout dans sa vie. Ce qu'il croyait acquis perd toute sa valeur. Même la culture qui a fait de lui ce qu'il est remise en cause. Lisez Philippiens chapitre 3. Vous entendrez ce que l'apôtre Paul dit au sujet de ce qu'il est ou de ce dont il peut se vanter, pharisien, ainsi de suite. Paul comprend que le Dieu qu'il croyait servir à travers sa culture a un autre projet. Dieu l'invite dans son projet à lui. Il quitte ce qu'il a considéré longtemps comme solide, comme acquis, pour quelque chose de nouveau. Ce projet, c'est qui ? C'est Jésus-Christ et son Église. Désormais, Le monde n'est plus ce monde binaire, fait de juifs et de non-juifs. Il est un monde fait d'humains, tous pécheurs aux yeux de Dieu, tous avec le besoin d'être sauvés. C'est cette nouvelle culture qu'il embrasse. C'est celle-là qui vaut la peine d'être vécue. C'est celle-là que l'Église doit promouvoir. C'est celle-là qui fait de nous, comme Église, ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Dans cet extrait, l'apôtre Paul demande au Seigneur que ces hommes qui font partie de l'Église aient cette connaissance à Éphèse, qu'ils réalisent l'identité qui est la leur désormais, qu'ils laissent l'être intérieur être fortifié, être régénéré, être transformé par l'action du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont censés être l'habitation du Christ. Enracinés dans l'amour de Christ, ils sont habités ou devraient être habités d'une volonté d'aimer. Cet amour leur ouvre les yeux de l'esprit, pour connaître le vrai Dieu. Pas celui de la religion, pas celui de la tradition, pas celui de la culture, mais le Dieu qui veut le salut de tout humain. Par sa vie, l'Église expose au monde visible et invisible, la sagesse de Dieu. Parfois, le seul regard que nous avons de l'Église, ce sont les scandales. On en parle tellement dans la radio. Il y a quelques semaines, pendant que j'étais près de Paris, on parlait de cette icône de l'Église à qui l'on reproche des comportements inappropriés. Et c'est souvent cela que nous regardons et c'est souvent cela que nous voyons de l'Église. Les scandales, des pasteurs amoureux de l'argent, des pasteurs autoritaires, discriminants. Souvenez-vous qu'au jour du jugement, le Seigneur déclara à ceux-là, qui pourtant étaient dans l'Église, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Paul questionne notre vécu spirituel. Autant il nous interpelle personnellement, autant il nous interpelle de manière communautaire. Comme Église, soyons des personnes fortifiées par la présence de l'Esprit de Dieu. Soyons enracinés et fondés dans l'amour. Que la sève du Saint-Esprit coule en nous pour nous donner de connaître le Dieu que nous voulons servir. Pour être des témoins authentiques dans le monde, pour faire connaître la sagesse infinie du Dieu que nous servons. Aspirons à être des hommes et des femmes humbles qui ont éprouvé le brisement et qui s'appliquent à la sanctification. Cette sanctification prônée par Christ. Tout cela pour la gloire de Dieu. Amen.